last year Sidney Lumet was here, and he had a very good time. So I said yes this year, and I'm happy to be here.
The only relationship to a Hollywood studio is whether the picture makes money. If it makes money, there's no problem. It could be about the beautiful life of Fidel Castro. They would do it if they thought it would make money.
To miał rację. Ten, co leci, czekał w górach. Czy ten, co się ukorzył i służy?
Au sommaire de notre journal du festival aujourd'hui, réalisé en compagnie de Charles et Nico, un micro-trottoir réalisé à l'issue de la séance du film Le lac aux oies sauvages, un extrait de la rencontre avec Alice Vinocourt pour son film Proxima, et bien sûr un agenda de quelques films à voir pour aujourd'hui, mardi 12 novembre, à la fin de ce journal. Et on commence avec Nico qui nous propose de revenir sur l'avant-première Les Misérables avec une interview de l'équipe du film.
Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
Hey, les gars, soleil
Ceux qui te respectent, tu me parles. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout.
Les Misérables, c'est le nom du premier film de Ladj Ly. Ladj Ly qui vient du collectif d'artistes Courtrajmé, aux côtés de Kim Chapiron ou encore Romain Gavras. Dans ce film, on suit un jeune flic dans son premier jour au sein d'une équipe de la BAC. Et à travers son regard, on découvre ou on redécouvre la vie dans les quartiers les plus pauvres de France, en banlieue parisienne. Sa débrouille, ses solidarités, ses équilibres de force entre les grands frères censés tenir le quartier, les frères musulmans, les dealers, etc. On découvre surtout, enfin bon, maintenant tout le monde en France est au courant, les violences policières quotidiennes de la part de flics, certes mis sous pression, mais aux attitudes de cow-boys de la cité.
C'est quoi votre problème à vous? C'est quoi votre putain de problème? C'est moi la loi!
Donc t'es en train de m'expliquer quoi là? C'est un accident?
Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure.
C'est pas de votre faute. Comme d'hab quoi. S'ils avaient raison d'exprimer leur colère. Seul moyen de se faire entendre aujourd'hui.
Tu vas trop loin là!
T'auras jamais l'esprit bac toi.
Parce que je joue pas au cow-boy.
Ce que t'as pas compris, c'est que justement on joue pas nous.
Les Misérables, ça parle des violences policières, un film dans la lignée, je dirais, de La Haine ou encore de Ma Cité va craquer. Alors, étaient présents pour présenter le long métrage au Arras Film Festival deux des acteurs principaux, Damien Bonnard et le beau gosse Djibril Zonga. On écoute un extrait de la conférence de presse, alors désolé, le son n'est pas tip-top. Les comédiens nous parlent de la manière dont ils ont travaillé leur rôle.
Comme la parole des policiers, elle est très rare parce qu'il y a un droit de réserve, du coup c'était pas évident de trouver des choses pour se nourrir, donc on a trouvé quelques bouquins avec des parcours de policiers, des documentaires, mais on regardait aussi des vidéos filmées depuis du point de vue des habitants aussi, enfin on regardait dans les deux sens. Puis après c'est beaucoup d'observations de la police, de voir comment ils se déplacent, comment ils bougent, comment ils parlent, comment... Et puis après moi je me suis beaucoup questionné sur la justice, sur les limites de la justice, sur mes droits de policier, sur les droits du citoyen en face. De m'être plongé comme ça dans ce sujet-là pendant plus d'un an et demi, plus les résonances que ça a aujourd'hui avec une actualité des violences policières et de la violence sociale et qui prend de plus en plus de place en vrai en France et dans le monde. Mais moi, depuis le film, ouais, je suis beaucoup plus attentif et je me sens plus engagé. En tout cas, j'ai un regard plus aigu là-dessus et je laisse moins passer de choses.
Des films qui parlent des quartiers les plus pauvres en France, c'est pas si courant que ça. Et des films réalisés par des gens qui ont vécu dans ces quartiers, c'est encore moins courant. Et là, ce qui m'a un petit peu étonné, c'est que finalement, le point de vue principal adopté dans le film, c'est celui des flics. C'est ce qu'on voit le plus, c'est les personnages les plus développés aussi. Et puis, on découvre le quartier. À travers le regard de votre personnage, hein, qui est un jeune flic qui vient d'arriver.
En même temps, moi, je trouvais ça hyper intéressant que là, je prenne ce point de vue, parce qu'en vrai, c'est les policiers qui passent leur temps à regarder tout le monde. Après, je n'aurais pas voulu, c'est plutôt là qui pourrait vous l'expliquer, ça va être cette volonté-là.
Moi, je trouve que c'est pareil, c'est super intelligent de sa part. De par son parcours, déjà, on aurait pu s'attendre à ce qu'il soit du côté ces jeunes du quartier, mais au contraire, c'est ça qui fait que c'est fort. Le fait que ce soit l'histoire de trois policiers dans une banlieue que c'est un vrai film de cinéma et pas un film de banlieue fait par quelqu'un qui vient de...
Il voulait parler, de toute façon, en sous-texte dans tout son film, ce dont il veut parler, c'est de tous les liens qui sont brisés dans la communication entre tout le monde. Et en vrai, c'est un lien qui est complètement brisé, la police avec les habitants depuis très longtemps, et pas qu'en cité. De toute façon, lui, il l'a appelé Les Misérables, et Les Misérables, ça comprend absolument tout le monde. Donc c'est policiers, habitants, enfants, donc voilà.
Damien Bonnard et Djibril Zonga à l'affiche du film Les Misérables de Ladj Ly, prix du jury à Cannes quand même. Ça sort sur tous les écrans français le 20 novembre.
Charles a rencontré la réalisatrice du film Proxima. Je vous propose un extrait de cette interview.
Proxima, c'est la mission d'une femme astronaute qui s'entraîne sans relâche pour atteindre son rêve d'enfant, aller dans l'espace. C'est aussi l'histoire de son enfant, Stella, 7 ans, qui n'a Dieu que pour sa mère. Dans ce film, une once de féminisme et le questionnement de tout ce qui nous retient sur Terre. Les précisions d'Alice Winocourt, la réalisatrice.
En tout cas, j'ai toujours été fascinée par l'espace depuis que je suis petite, mais c'était une fascination un peu poétique parce que je connaissais rien de ce monde. L'espace, c'est un peu une surface de projection, en fait, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans l'espace, donc c'est un lieu de rêve. J'ai pensé que je devrais faire un film sur ce monde. Et j'ai été le découvrir et j'ai été à l'Agence spatiale européenne. J'ai commencé à rencontrer des entraîneurs, des astronautes. Et en fait, plus je les rencontrais, plus je me rendais compte que ces années de préparation, on ne les voyait pas dans les films. Parce que les films d'espace se passent plutôt dans l'espace. C'est-à-dire les problèmes arrivent plutôt dans l'espace. Et c'est d'habitude 5 minutes sur Terre. Parce que la réalité de la vie des astronautes, c'est que parfois ils s'entraînent toute leur vie, même ils partent parfois jamais. Et donc je me suis dit que j'allais raconter ce qu'était vraiment la vie des astronautes. Mais de l'inscrire aussi dans une veine intime autour de la relation d'une mère et sa fille, autour de la question de comment se séparer, comment concilier sa passion et ses rêves et le fait d'avoir des enfants. C'était plutôt l'idée de montrer que c'était difficile de quitter la Terre, en fait, alors que souvent l'espace il a quand même été pas mal monopolisé par le cinéma américain dans sa représentation, à cause des films qui mettent tout le temps en scène la NASA et... toujours l'image d'une superpuissance des astronautes, une image assez viriliste d'astronautes qui sont comme ça dans des positions conquérantes, qui sont des super-humains. Alors qu'en rencontrant ces gens, je me suis rendu compte que oui, ils avaient des super-pouvoirs, c'était un peu comme des dieux grecs, mais ils avaient aussi des défauts très humains auxquels on pouvait s'identifier. Mais aussi, ce qui m'intéressait, c'était de voir à quel point c'était une souffrance pour le corps de quitter la Terre, à quel point c'était dur de quitter ses proches, parce qu'il y a forcément aussi le risque de mort quand on quitte la Terre, qu'on sort de l'atmosphère. Donc,
En termes de témoignage, parce qu'à la fin de votre film, on voit défiler le portrait de ces femmes qui sont parties dans l'espace, une photo avec leurs enfants. Que vous vous êtes appuyé sur les témoignages de ces personnes. Dans le film, on voit aussi surgir Thomas Pesquet. Est-ce qu'il vous a guidé dans l'écriture du film, peut-être pour les détails un peu plus techniques éventuellement?
Lui et d'autres aussi, des entraîneurs, beaucoup d'entraîneurs de l'Agence spatiale européenne, de l'Agence spatiale russe même. C'était parfois même assez marrant parce qu'il y avait des fois où... parce qu'Eva aussi s'entraînait avec eux et des fois il l'engueulait, il lui disait qu'elle faisait mal, un peu comme les astronautes eux-mêmes. En ça, c'était vraiment une immersion complète, quoi. Aujourd'hui, maintenant que la planète est un peu en danger, il y a aussi la tentation de se dire qu'il y aurait d'autres vies possibles ailleurs. On est fait que pour vivre sur cette planète. C'est ce que disaient les astronautes, c'est que la Terre est une sorte d'oasis dans le cosmos. Et du coup, c'était l'idée aussi de parler de toutes ces sensations, de tout ce qui nous lie à la Terre, quoi. Le bruit des arbres, les sensations du vent, que des choses qui n'existent pas sur Terre. Dans l'espace, pardon. Petit lapsus.
Le film questionne aussi la place des femmes, évidemment, dans la société, dans ces métiers d'hommes.
Parce qu'il était un peu... parce qu'il faisait rêver, encore une fois, mais l'idée, c'était de parler aussi à d'autres femmes qui sont bien sur Terre, dans des vies plus quotidiennes, en tout cas dans le monde du travail, dans les entreprises. Je pense que certaines se reconnaîtront dans cet arrachement ou cette difficulté à concilier des métiers hyper compétitifs où il faut être... comme ça l'égal des hommes et en même temps d'arriver à s'occuper des enfants avec ce poids de la société qui sommes les femmes de rester, d'être la mère parfaite avec toutes ces qualités qui sont presque inatteignables et parfois c'est très lourd de vivre aussi avec ce poids là donc il faut se battre aussi contre ces obstacles intérieurs en plus de ceux qui sont à l'extérieur.
C'était Alice Winocourt, réalisatrice du film Proxima, paru en avant-première au Arras Film Festival. Le film sera dans toutes les salles le 27 novembre prochain.
On part maintenant à la rencontre de quelques spectateurs du film Le Lac aux Oies Sauvages. Le lac aux oies sauvages, présenté au Arras Film Festival dans la catégorie Cinéma du Monde, est le nouveau long métrage du réalisateur chinois Diao Yinan. Un film noir d'une maîtrise stupéfiante, tant dans la mise en scène, calibrée au millimètre, que dans l'introspection politique de la Chine actuelle. Des gangs familiaux se font face dans une ville labyrinthique où sévit le marasme gluant de la pauvreté, mais aussi la perversité de la police, prête à tout pour détruire ces gangs qui se partagent la ville. Un film violent, percutant, que ne renierait pas Quentin Tarantino. À l'issue de la séance, je suis allé à la rencontre de quelques spectateurs qui ne sont pas sortis indemnes de la projection.
Ah oui, ça c'est assez remarquable, oui, c'est vrai. C'est un film noir, mais bien mené, on va dire.
Ah, tout à fait satisfait de ce film, vraiment. Ouais. Oui, c'est très prenant, c'est... Et effectivement, c'est un film violent qui donne une certaine vision de la Chine actuelle.
Ah, j'ai trouvé que c'était vraiment très réussi, c'était vraiment un très très bon film et ça m'a beaucoup plu.
Moi, je trouve ça pas mal, après c'est pas le genre de film que j'ai l'habitude de voir, donc je pense que c'est un des premiers films chinois que je vois, mais c'était assez intéressant, il y avait beaucoup de choses, c'était très violent autant graphiquement que mentalement. Mais sinon, je pense que c'était une bonne expérience, voilà. Il y a des scènes qui sont très très impressionnantes du point de vue de la mise en scène. Je pense notamment à la scène dans l'espèce, enfin, au bord du lac, dans l'espèce de fête foraine où il y a la descente de la police. Je trouve ça, la caméra bouge beaucoup et c'est vraiment assez impressionnant et très très bien fait. Après, il y a forcément des moments un peu plus avides où on voit moins tout cet aspect-là. Mais oui, c'est vrai que c'est assez intéressant du point de vue de la mise en scène. Moi, j'étais intéressé par le film du point de vue en fait plutôt graphique parce que j'avais vu des affiches, des visuels et je trouvais ça vraiment très beau. Et en fait, c'est plutôt le son qui m'a surpris tout au long du film et j'ai trouvé le travail du son très très intéressant, toujours très prenant, avec plein de bruits un peu partout, des jeux sur différents bruits, les détonations notamment, il y a pas mal de jeux sur les détonations. Sur la scène avec du bateau avec l'eau et la scène érotique aussi, c'est très travaillé. Il y a plein d'exemples comme ça où le son est ultra important, donc oui, c'était aussi assez intéressant.
此次对抓捕犯罪嫌疑人周泽农提供重要线索者，警方将给予人民币30万元的奖励。很有可能就藏匿在这一带，他们应该进入了业务堂，是一个三不管的地带。
哪个都想管。这是周泽龙，龙哥吧？听到的。啊，花果厂招摇过来的。
Madame.
Je dis que c'est pas la Chine que je connais. Voilà.
Ah, d'accord, c'est la première fois que vous voyez un film aussi particulier.
Celui-là, pas mal, oui. C'était fort réussi, c'était très prenant, mais on pouvait pas être indifférent.
C'était poignant, c'était. Enfin, moi, j'ai jamais vu la Chine et waouh, ça fait réfléchir à ce qui se passe dans le monde. Je sais pas, j'ai toujours détesté les films d'horreur et en même temps, je me dis, il y a tellement d'horreurs qui se passent déjà dans le monde, pas besoin d'aller se voir des gens qui se font égorger. Enfin bref, je suis chamboulée. Faut que je me remette de mes émotions.
À chaud comme ça, c'est un peu rapide, mais disons qu'en général, sur la mise en scène, toujours très original, toujours très intelligent, avec vraiment des bonnes idées. Il y a vraiment des très bonnes idées de mise en scène. Ça fait du bien de voir un film comme ça. Ça fait du bien, c'est une façon de dire les choses.
Si vous avez loupé le film Le Lac aux Oies Sauvages, courez vite le voir pour la séance de rattrapage qui se déroule le samedi 16 novembre dans la salle 2 du Casino à 11h30. On passe maintenant à l'agenda du festival d'aujourd'hui, mardi 12 novembre. Alors Charles, on commence avec toi.
Au Megarama à 11h30, le film Parking, un film roumain signé de Tudor Giurgiu, histoire d'amour sur fond d'immigration et de rêve d'une vie meilleure, une rencontre bouleversante et un passé lourd qui rattrapera Adrian, ce migrant roumain qui rejoint l'Espagne.
À 16h30, toujours au Megarama, mais salle 1, Where is Hendrix? un film chypriote. Il y aura aussi une rencontre avec Marios Piperides, le réalisateur. Alors, where is Hendrix, tout simplement, c'est le chien qui s'appelle Hendrix et qui se sauve. Mais son maître doit quitter le pays, mais il ne veut pas partir sans son chien. Donc, il organise la recherche. À 16h30, toujours au Megarama, mais salle 2, It Must Be Even, le film palestinien de Elia Souleyman, un film qui rend hommage à Jacques Tati, tant dans sa réalisation que par le burlesque et l'absurde de l'histoire. Je n'en dis pas plus, avis aux amateurs.
Ciné-concert à 19h, ça se passe à la chapelle du conservatoire et non au cinéma. Nosferatu, le vampire, accompagné par l'ensemble ciné-concert du conservatoire d'Arras, c'est sous la direction de Jacques Cambra.
À 19h, cette fois-ci en salle 2 du casino, on en parlait juste auparavant avec un micro-trottoir, une nouvelle diffusion du film Le lac aux oies sauvages. Je reviens dessus parce que j'avais annoncé la diffusion pour le 16 novembre, mais j'avais oublié celle donc d'aujourd'hui à 19h. Le lac aux oies sauvages, un film noir, une sorte de polar à la Tarantino, un film coup de poing, âme sensible, s'abstenir, mais si vous aimez prendre des coups en plein plexus, allez-y.
À 21h30, dans la salle 2 du Megarama, L'Adversaire, un film en hommage à Nicole Garcia, de Nicole Garcia d'ailleurs, avec Daniel Auteuil, Géraldine Payas, entre autres. Cette histoire inspirée donc de faits réels, Jean-Claude Ramand, cette affaire du faux médecin auprès de l'OMS, qui a menti à sa famille pendant des années. Cette fois, c'est l'histoire de Jean-Marc Faure, qui joue le père de famille modèle et qui ment à sa famille pendant près de 18 ans. Il est prêt à commettre l'irréparable.
Et puis, sur la 20e édition du Arras Film Festival, évidemment, il y a aussi de la musique, les afters musicaux. Ça se passe au village du festival, en entrée libre, et à 23h15, ce sera la musique franche de Blow Man Blow. Et puis, avant de se quitter, une info, un petit pataquès qui s'est déroulé hier donc sur le festival. N'est-ce pas, Charles ?
Oui, un projecteur a fait des siennes lors de la projection de La Famille Adams, qui attendait d'ailleurs beaucoup de monde au casino dans la salle 1, qui était pleine à craquer. Donc, bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent, petit souci technique qui a remué un peu l'après-midi. Quelques films ont été annulés, puisqu'il y avait une avant-première qui était prévue.
Ouais, c'était l'avant-première du film Sol, qui devait être en présence de l'équipe du film, donc avec Chantal Lobby, Camille Chamou et Jezabel Marquez. Alors tout le monde a été rapatrié au Megarama d'Arras, tous ceux qui devaient voir ces films, pour justement présenter Soul dans trois salles différentes. Donc résultat des courses, beaucoup de salles du Megarama ont annulé leur projection. Et puis Liliane, le film autrichien qui devait être diffusé dans la salle 2 du casino, ça a créé un peu la panique au niveau des bénévoles qui ont envoyé le public au Megarama. Seulement la salle 2 du casino, elle était fonctionnelle. Donc pas de panique, ne vous inquiétez pas, un nouveau projecteur était en route qui vient de Paris. Il sera là donc aujourd'hui pour toutes les séances au casino. C'est la fin de ce journal du festival épisode 2. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode.